Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Comme on l'entend derrière moi, je suis à jour de fête à Feigneux pour une nouvelle édition sur le thème de l'éducation populaire. Et là, on entend la fanfare Fanfarasca qui est en train de jouer. La fête bat son plein. Je suis avec un apiculteur de Versigny qui s'appelle Christophe Jodas, ou Jodas.
Jodas avec un
Jodas.
S.
Comment ça se passe l'apiculture pour vous à Versigny? Ça fait longtemps que vous y êtes installé?
Versigny, ça va faire 4 ans en novembre et j'ai commencé l'apiculture il y a 6 ans. En fait, je ne connaissais pas du tout le métier au départ. J'ai quitté mon métier de personne naviguant chez Air France donc il y a 6 ans. Et je voulais une activité en rapport avec l'agriculture, vivre avec les saisons, en harmonie avec les saisons et puis faire quelque chose de mes mains, d'utile. Je suis allé voir un voisin qui est devenu un ami, Philippe Pétré à Mont-l'Évêque. J'ai passé l'après-midi avec lui et j'ai su que c'était ce que je voulais faire.
Il était déjà apiculteur.
Ah oui, c'est un monsieur qui a 75 ans, Philippe Pétré.
Ouais.
Il est connu et reconnu au sein des apiculteurs comme référence.
Vous a appris le métier d'apiculteur ?
En une après-midi, j'ai vu les tenants et aboutissants du métier et j'ai fait une formation à l'Oise Apicole, mon syndicat, et sur un an. Et ça m'a plu. De toute manière, l'abord que j'ai eu avec Philippe Pétré m'a convaincu.
C'est difficile de devenir apiculteur ?
Non, il faut une immatriculation auprès de la MSA, un numéro d'apiculteur et puis une assurance.
Mais voilà. Le métier lui-même, les abeilles, etc.
Non, le métier, il y a une partie théorique et puis formation. Non, c'est pas très compliqué, en fait, ça se fait. Et puis, il faut être de bon sens. C'est
oui, par rapport à où installer ses ruches, etc.
Voilà, ça, c'est plus compliqué. Il faut trouver les terrains, oui. Mm-hmm. Il faut trouver des bons terrains. Donc, des agriculteurs mettent ses ruches à des endroits vraiment propices où il n'y ait pas de mortalité importante. Donc, sur des terrains un peu éloignés de propagation de pesticides, hein, si possible. Moi, je suis sur des terrains tenus par des maraîchers bio ou sur des terrains communaux. Pour l'instant, je n'ai pas une mortalité due aux pesticides. C'est plutôt dû à une famine ou ce genre de choses.
La sécheresse, là, ça a été problématique?
Jusqu'au 15 juillet, la récolte a été très très bonne. Après, elle était un peu moins propice, oui. Non, j'ai quand même terminé par un petit forêt, là, qui est pas mal. Après le tilleul, voilà. Mais on a fait du printemps et de l'acacia également.
Vous faites donc quoi comme style de miel? Le tilleul, l'acacia?
Printemps, acacia, tilleul, forêt dans l'Oise, dans le sens de la saison. De la ronce, parfois, moi je n'en fais pas. On fait 5-6 miels à peu près, voilà.
Vous arrivez à en vivre aujourd'hui?
Oui, ça va.
Mais parce qu'il y a quand même la concurrence,
simples.
Entre guillemets. Enfin, il y a de plus en plus d'apiculteurs, moi, j'ai
oui.
l'impression, dans la région, on est d'accord.
Oui, plus en plus d'apiculteurs, plus en plus de maraîchers, de toute manière. Les gens reviennent à la nature et veulent faire leurs produits eux-mêmes.
Tant mieux.
Oui, c'est une bonne démarche, de toute manière, oui. Et ça fait envie à tout le monde, je pense, oui, de bien manger, de mieux manger.
À notre époque, c'est pas plus mal,
c'est
quand même.
C'est pas plus mal, non, c'est sûr.
Ok, merci. Si on veut avoir des informations, donc... sur vous, on vous trouve comment? Donc Christophe Jodas à Versigny.
À Versigny, au 706 rue Charles de Gaulle. Ou alors je suis tous les mercredis matin au marché de Crépy-en-Valois et le jeudi matin au marché de Villers-Cotterêts.
Très bien. Merci beaucoup Christophe.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Je suis avec Benoît Pierre. Je découvre une nouvelle brasserie en Picardie qui est installée à Russy-Bémont. La bière s'appelle DS. Ça, c'est un joli nom. Quand est-ce que vous êtes né comme brasseur ?
Alors, en termes de brasserie, on est arrivé depuis février officiellement. Officieusement, ça fait plus d'un an qu'on est déjà en train de créer la brasserie. Mmh. Bon, après, on va passer les détails de problèmes de création de brasserie et compagnie, mais on a perdu une petite année.
Mais c'est intéressant en même temps de savoir ces problématiques.
C'est des petits problèmes
administratifs.
Voilà, tout à fait. D'accord. On est dans l'administratif à 100%.
Donc et c'est pas simple en fait.
C'est pas tout le temps facile. Mais bon, maintenant qu'on est lancé, on est très bien.
Il faut des autorisations. Ouais.
C'est surtout par rapport aux douanes, par rapport à comment on stocke la bière, où on la fabrique et compagnie. Donc c'est vrai que ça peut poser des petits problèmes derrière, mais maintenant qu'on est lancé, tout ça c'est derrière nous, donc on est content. Et on vend officiellement depuis début août 2022.
Quel type de bière vous faites?
Alors on fait un peu de tout. Le but là c'était pour se présenter, se démarquer un peu par rapport à la concurrence qui est assez présente. On a fait une palette de 6 bières qui vont de la blonde classique jusqu'à la triple bien alcoolisée. En passant par une petite bière noire, une stout, qui est plutôt légère. Après forcément les classiques IPA et on a une petite qu'on appelle la NEPA. Qui n'était pas prévue à l'origine dans notre gamme, mais au final, elle plaît tellement qu'on la garde dans la gamme.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Alors c'est comme une IPA, sauf que on oublie l'amertume et on garde que l'aromatique. Et en fait, nous, on a travaillé sur le houblon à 100% dessus pour pouvoir obtenir quelque chose de vraiment dans l'agrume, des petites notes de raisin aussi quand elle est bien fraîche.
C'est compliqué de fabriquer sa bière ?
C'est technique, c'est pas compliqué, c'est accessible pour tout le monde parce que nous, on a commencé il y a 4 ans avec un petit kit tout basique de 30 litres. Mais c'est plus technique que compliqué. À partir du moment où on suit une recette, après c'est comme faire un pain ou comme faire un gâteau. Mais pour créer la recette, par contre, il faut avoir quelques connaissances.
Oui, c'est ce que je me disais, parce qu'en fait, il y a différentes recettes. Enfin, il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien, donc du coup, il doit y avoir aussi...
Il y a des ratés, il y a des monstres...
Ouais. Voilà. Et là, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous établissez une recette qui va fonctionner, en fait, et donc vous y restez, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En gros, on va faire des tests. D'abord, nous, on est sur du 300 litres, donc on va plutôt tester sur du 30 litres dans un premier temps, puisqu'après, le ratio est plus facile à calculer. Et si la bière nous plaît par rapport au calcul qu'on a fait, c'est beaucoup de mathématiques, au final, et beaucoup de calculs quand on connaît ses produits. Et qu'on sait avec quoi on travaille, à partir de ce moment-là, après on finit par obtenir ce qu'on veut rapidement. La NEPA, par exemple, je peux donner l'exemple, on l'a fait sur un coup de tête, on a fait 300 litres d'un coup en se disant tant pis si on la rate. Au final, elle a très bien fonctionné parce qu'on connaissait très bien nos produits. Ça énerve un peu les confrères quand on leur dit ça parce que ça fait un peu on se la pète, alors que non, c'était vraiment sur un coup de tête qu'on l'a faite.
Et les confrères, vous les rencontrez ?
Ouais. On les rencontre, on est en train de faire le tour, mais malheureusement, on n'a pas forcément le temps. Toujours un peu compliqué. Et puis même eux, il faut se mettre d'accord sur nos emplois du temps. Donc,
Oui, parce qu'en fait, c'est pas une concurrence. Ça l'est quand même commercialement, forcément.
Mais sinon, mais on n'aime pas le terme concurrence parce qu'on ne propose pas les mêmes produits. On propose la bière, mais on ne propose pas du tout la même chose, la même approche, la même façon de fonctionner. Et la même volonté aussi de présenter nos produits n'est pas la même, le goût. Donc la bière, il y en a pour tout le monde et il y en a pour tous les goûts.
Et vous la vendez à Russie-Bémont ?
Russie-Bémont. Là, on essaye de s'étendre petit à petit dans toute l'Oise. Après, tout est dispo sur notre site internet. On a mis en place une carte pour nos clients, pour qu'ils puissent savoir où l'acheter et compagnie. Après, s'ils viennent à la brasserie, ils ont l'avantage qu'ils ont les brasseurs en direct et on présente la brasserie en même temps, pour le même prix.
Et est-ce que c'est pas un peu compliqué aujourd'hui, ce type de produit, alors qu'on voit bien que les brasseries se multiplient dans toutes les régions ? On arrive à trouver sa place ? Moi, je le vois. En Picardie, ça a énormément bougé, en fait, ces dernières années.
C'est là où on râle un peu, dans le sens où on le dit qu'on a perdu un an, parce qu'on pense qu'il y a un an, ça aurait été plus facile pour nous, post-Covid. Là, c'est un peu plus compliqué, mais maintenant, c'est à nous de faire nos preuves et de travailler, tout simplement. Quand on discute avec les confrères qui sont là depuis longtemps, ils nous ont dit qu'il y a de la place encore dans l'Oise, et il y a de la place à se faire. Donc, on reste sur ce credo-là, on désespère pas, et puis de toute façon, après, on essaiera d'aller un peu partout. Mon associé vient du Mans, on va aussi au Mans, on va essayer d'aller un peu partout.
Très bien, mais écoutez, bonne chance à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Raphaël, bonjour. Tu as un stand avec des chaussons en cuir pour enfants. Ça fait longtemps que tu t'es lancé dans cette activité.
Alors oui, j'ai un stand de chaussons en cuir qui sont pas que pour enfants, mais jusqu'à la pointure 45.
Ah, carrément.
Alors, c'est des chaussons en cuir, en fait, je suis chaussonnière. Donc, c'est un métier qui a tendance à disparaître, puisqu'on connaît les bottiers, les cordonniers, mais pas les chaussonniers. Alors, les chaussonniers, en fait, ils travaillent avec des cuirs, mais qui sont des cuirs plus légers, qui sont des cuirs moins fermes. Ou alors, c'est pas les mêmes parties, en fait, de l'animal qu'on va prendre pour gagner de la souplesse. Voilà, donc je suis chaussonnière. L'atelier est à Beauvais. Et là, je me déplace sur Feigneux parce que c'est dans le contexte, que c'est autour de l'environnement qu'on est bien, et surtout c'est autour de l'éducation populaire. Et je suis aussi formatrice en confection avec plusieurs associations, dont une sur Beauvais et une autre sur la Chapelle au Pot. Et donc aujourd'hui, bon, il y a un petit peu de vent, mais normalement, il y avait une formation également sur les machines à coudre.
C'est quoi pour toi l'éducation populaire ?
Justement, c'est les échanges. Et là, c'était le cas avec des initiations autour des machines à coudre. Et en fait, les tissus qu'on allait employer étaient que des tissus de réemploi. Donc, comment on peut réemployer un tissu avant qu'il soit complètement fichu et pas jeté, mais mis dans un compost. Et pour ça, on n'en a pas 50. Il y a les cotons, le lin, le chanvre, des matières d'origine naturelle, ou bien de la laine issue du mouton, mais pas les acryliques. Et les gens, ils ne savent pas, mais qu'un t-shirt, il peut devenir après un sac. Après ce sac, il peut devenir encore ce bout de t-shirt et on peut en faire encore un bout de lingette. Après, on peut en faire un chiffon et après, on peut le jeter dans son compost. On peut faire jusqu'à 9 vies avec du coton. Il peut avoir 9 réemplois, ce qui est énorme. Et souvent, on pense à un truc et pas aux autres. Donc l'idée de savoir coudre, eh bien, c'était justement cet échange. Et puis moi, aujourd'hui, je me suis aussi baladée dans les autres stands, notamment sur les fabrications là, de déodorants. C'est ça aussi l'éducation populaire, c'est que j'ai des compétences dans un domaine, ils en ont d'autres dans d'autres, et puis on va les échanger à un moment. Sur un terrain, c'est là.
Ça veut dire que tu ne travailles pas que le cuir?
Ah si, moi je travaille que le cuir, c'est mon métier, mais en fait tout ce qui est à côté, les associations, etc., on est tous des bénévoles. Et donc, c'est pas notre métier en soi, en fait. C'est vraiment de l'échange à tout prix, quoi. Donc, on n'est pas tenu non plus par des engagements politiques, etc., le fait d'être des bénévoles.
T'as appris comment à faire des chaussons en cuir?
Les chaussons en cuir, j'ai d'abord surtout appris à coudre. Quand j'étais très jeune, il y avait à l'époque, dans les collèges, un truc qui s'appelait l'EMT. Soit on faisait de la cuisine, on faisait de la couture. Puis à ce moment-là, ils ont fait un tablier de cuisine. Puis moi, j'ai pris des draps, puis j'ai fait un vêtement entier. Puis après, je ne me suis plus jamais arrêtée. Après, j'ai fait des écoles, en fait, pour continuer quand même. J'ai continué, mais en me formant professionnellement. Et puis les chaussons en cuir, c'est arrivé un peu plus par hasard, en fait. Le système du piqué retourné qu'on appelle pour nous, pour les chaussons en cuir, c'est pas nous qui l'avons inventé. Alors, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est une femme qui habite au Canada, en fait, qui a inventé ce système-là. Alors, c'est un système très, très particulier, parce qu'on voit qu'à la fin, en fait, ce que ça donne. C'est-à-dire que tout le temps de la fabrication, on ne le voit pas. Et alors, moi, j'ai des pieds qui sont moches, qui sont grands. Ils ne vont pas à mes pieds.
Mais si, ils vont. Tu tiens debout dessus.
Ouais, je tiens debout vachement bien. Mais du coup, les chaussons, je trouve ça moche sinon. Et j'adore le cuir. Donc voilà, l'idée, c'était quand même d'associer ça. Et puis de trouver un truc qui soit sympa, même chez soi, à mettre, qui ne fasse pas gnangnang, avec des petits nœuds partout, ou des trucs en synthétique, pas du tout adapté pour la peau, pour le pied, ça ne sent pas bon. Le cuir, l'intérêt, c'est que ça reste quand même toujours des matières qui continuent de travailler, dont la peau peut le supporter, puisque c'est aéré, c'est respirant et c'est confortable. En revanche, ça vit moins bien, ça vit moins longtemps, puisque les gens disent le cuir, je vais pouvoir le garder toute ma vie. Non, le cuir, il va s'abîmer, il durera moins qu'une paire de chaussons en acrylique ou en polyester ou avec des polymères, puisque ça, c'est à l'issue de la bouille de pétrole et ça peut rester jusqu'à 200 ans.
Ah oui, et tu le trouves où ton cuir?
Alors, j'ai plusieurs fournisseurs en fait. Il y a une partie qui vient en fait de certaines ressourceries où je rachète au poids, au kilo. Ensuite, il est nettoyé en fait avec des poudres qui sont issues des végétaux. Donc, c'est tout un système aussi de nettoyage. Après, je travaille aussi avec des tapissiers d'ameublement. Je rachète en fait leur chute de cuir. Et il y a aussi des peaux en fait que j'achète aussi en enchère quand je sais que c'est des peaux qui valent le coup et qui sont vraiment avec des tannages aussi d'origine naturelle.
Et on trouve tes informations où?
Alors, sur le site qui est www.colapompom.com, colaspompom. Et l'atelier est à Beauvais. Donc, les gens peuvent commander leurs chaussons et ils peuvent venir les récupérer à l'atelier. Comme ça, en même temps, on se rencontre. Et s'ils sont trop éloignés de Beauvais, il y a tous les systèmes d'envoi à distance.
Ok, merci Raphaël.
Merci beaucoup.
Aurélie, je vois que vous vous prêtez au service public Facteur d'amour. Vous venez de me dire en off que c'était la première fois que vous preniez le temps depuis des années d'écrire une lettre. Qu'est-ce que ça vous fait, ça?
Ça me fait plaisir. Enfin, j'ai pu coucher les mots que j'avais envie de dire à mes parents.
Et vos parents sont là, du coup?
Ils ne sont pas là pour cette édition. Donc, je suis bénévole sur la fête. Je voulais que les mots poursuivent en fait cet esprit de la fête, l'amour qu'on partage ici. Tout le soleil qu'il y a dans les cœurs, ils peuvent s'écrire aussi à travers les mots.
Est-ce que ça pourrait vous donner, ce facteur d'amour, l'envie de réécrire un petit peu des lettres ou pas?
Oui, c'est vrai, ça peut me redonner l'envie. Mais j'écris toujours alors.
C'est vrai?
Ouais.
Ouais, mais écrire
pas
des lettres,
c'est pas pareil. J'ai fait écrire des lettres, des cartes postales à mes élèves là cette année.
Ah, et alors?
Elles sont sur la fête. Ils ne connaissaient pas la carte postale. Donc, comme quoi des choses se perdent et ça leur fait plaisir. À qui ils voulaient écrire? À papy, à mamie, à un ami, à papa, à maman.
Ok, super. Voilà. Le service public Facteur d'amour, j'aime bien redire aux auditeurs ce que c'est. Donc, le public va écrire une lettre. Ça peut être distribué sur place avec un vélo, donc les facteurs en l'occurrence, ou envoyé. C'est bien ça?
C'est bien ça. Je viens d'écrire un vélogramme. Donc, il y a un des facteurs qui va aller porter à la personne que j'ai décrite sur mon petit papier, qui est le destinataire, et qui va recevoir ce message soit en off, soit déclamé en voix publique.
Et il faut une description assez précise, du coup, j'imagine, non? Parce que comment le facteur fait pour savoir quelle est cette personne?
Il y a tellement d'amour dans les messages qu'on envoie, je pense que les facteurs trouvent et sont guidés par cet amour.
Merci beaucoup, Aurélie.
Eh bien, écoutez, merci à vous.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à Jour de Fête, ce festival citoyen à Feydieu, pour cette nouvelle édition sur le thème de l'éducation populaire. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.